silo, là où on a perdu Arthur, c'est vraiment un putain de boulot de bagnard. Très très dur. Enfin, moi je sais que dans les. Peut-être sans vouloir faire le Marseillais, j'ai peut-être fait une vingtaine, une trentaine d'activités différentes dans ce métier, d'activités professionnelles différentes dans ce métier. Et ça, le silo, c'est vraiment le truc le plus dur que j'ai fait. C'est vraiment.
Le vendredi 11 janvier, les cordistes se rassemblaient devant le tribunal de grande instance de Reims pour le procès de l'accident d'Arthur et Vincent, enseveli en 2012 au fond d'un silo de l'usine Crystal Union de Bazancourt. Loin d'être un événement isolé, les cordistes s'organisent maintenant pour donner de la visibilité avec l'association Cordistes en Colère. Radio Primitive s'est entretenue avec l'un d'entre eux.
Par rapport à cette affaire d'aujourd'hui,
Arthur Vincent.
Moi, ce que j'avais entendu dans le documentaire de Quentin, c'est qu'il avait lui-même, il s'est décroché parce qu'il y avait eu un souci.
Oui.
Est-ce que, du coup, ça peut être porté contre lui, ça?
Bien sûr que je pense que la partie adverse, c'est ce qu'ils vont essayer de faire, et c'est leur jeu. Par contre, le contexte dans lequel il l'a fait, était un peu particulier, ils avaient été poussés un petit peu au crime, moi, c'est ce qu'on appelle poussés au crime, quoi. Parce que voilà, quand ils sortaient d'un truc, ils étaient déjà épuisés, on les renvoie faire un truc parce que tu comprends, bah, il faut gagner plus d'argent. Parce que c'est ça, c'est sur l'autel du profit, quoi, hein, qu'ils se sont sacrifiés parce que finalement on leur a dit, bon, mais vous avez fini, bah non, c'est pas fini quand on a plus un encore, quoi. Mais bon, les mecs, ils sont rincés, ils sont épuisés, ils se sont speedés pour pouvoir arrêter, puis ils sortent de leur truc. Ils ont même pas eu le temps de prendre un temps de pause, on les renvoie dans un autre. Et là, la précipitation, je suis d'accord qu'il y a un côté débutant, tu vois, non, parce que c'est un truc que moi j'aurais jamais fait, mais les prochains, on est bien d'accord. Mais que d'autres mecs qui auraient un petit peu goûté, ils n'auraient jamais fait. Mais là, le mec, il n'en peut plus, il veut finir, sortir, tu vois. J'en ai marre, toi, le mec, on va faire un happening tout à l'heure, on va se mettre une combi de travail avec les masques et tout, pour que les gens se mettent bien dans la tête, dans quelles conditions on travaille, comment on sait. Et encore que là, on va être dehors, à l'air frais, tu vois. Quand tu es dans un silo, tu pioches dans le ciment, tu vois pas tes pieds, tu vois le manche de ta pioche, mais tu vois pas la pioche.
De la dangerosité pour ce que c'est payé en plus. Enfin, moi je trouve que c'est quand même un métier super dangereux.
Les critères de pénibilité. En fait, c'est un métier super dangereux, oui et non. Parce qu'en fin de compte, si tu veux, les gens là où ils voient le risque, nous c'est pas là qu'on le voit le risque. Parce que le risque de chute, le risque de hauteur et tout ça, c'est un risque qu'on maîtrise celui-là. Celui-là, on ne demande pas de prime de risque d'ailleurs pour ce genre de truc. On demande des primes de risque, enfin on essaye de demander des primes de risque pour le risque naturel, comme par exemple la chute de pierre, ou des risques non maîtrisables, comme l'effondrement d'un silo quand tu as les pieds dessus, donc ça s'effondre sous tes pieds. Il y a des procédures comme lever sa corde, pas la laisser traîner, avoir un treuil, être attaché à un treuil en permanence, donc tu ne peux pas te détacher normalement du bas, pour que le mec d'en haut de la vigie, si il te voit plus ou il t'entend plus,
il
n'a plus qu'à appuyer sur le bouton, il te remonte. Et ça, c'est des procédures qui existent. Donc on ne veut pas inventer des nouvelles procédures de sécurité, on voudrait juste faire respecter ces
procédures. Oui, mais il faudrait du coup que les entreprises, elles s'équipent entre eux et qu'on voyait que là, avec Crystal, que ce n'était pas le cas.
Carhartt, TH, a priori, ils n'étaient pas équipés pour ce genre d'évacuation d'urgence. Et ça, c'est un truc qui doit être organisé en amont. C'est pas aux cordistes de dire, ah bah il faudrait faire ça. Non, nous, on arrive, il faudrait que tout soit en place. On n'est pas là à organiser le chantier, on vient juste faire le boulot pour un salaire de misère. Donc c'est pas à nous, en plus, on ne veut pas aller, ah non, il manque un treuil, attends, on va en acheter un. Non, mais par contre, moi je sais que si j'arrive sur un silo et que je vois pas de treuil, devant l'alerte, les gars, il n'y a pas de treuil, personne descend. Et moi, je vais laisser personne descendre.
Oui, parce que toi, tu as l'expérience.
Parce que j'ai 20 ans de corde et que j'ai déjà vécu ce genre de truc il y a très longtemps. J'ai déjà eu à voir extraire les gars. Je suis déjà parti de chantier où le lendemain, il y a eu des accidents. Tu vois, j'ai assez de vécu avec ça pour savoir que non, on est là pour bosser. Comme on dit dans notre jargon, on n'est pas là pour engager la viande, on n'est pas des mercenaires. Quoi. C'est pas la guerre, c'est juste un boulot pour rentabiliser un peu pour une entreprise. Ok, mais nous, on va pas y laisser un bras, une jambe ou la vie. C'est pas notre job. On se fait payer 40 balles de l'heure, ça serait pareil. On n'est pas là pour ça. On est là pour faire un job et le faire en sécu. C'est pour ça qu'on n'a pas trop oublié. C'est qu'on est censé le faire en sécu.
En 2017, Rebelote, Et aujourd'hui, on en est où ? Cette entreprise, est-ce qu'elle continue à employer ?
Bien sûr. Mais c'est des trucs, c'est à l'année qu'il y a des mecs dans les silos. Hein. C'est dans les entreprises comme Crystal Union, je pense qu'il n'y a pas un mois de l'année où tu n'as pas des mecs sur corde qui travaillent. Parce que les silos, ils n'en ont pas deux, tu vois. Ils en ont un champ, tu vois. Donc le truc, c'est que bah, quand c'est fini dans l'un, bah, tu vas dans l'autre, quoi. Il y a des mecs qui pourraient aussi bien habiter sur le parking à l'année, quoi, de Crystal Union, tu vois, dans leur bagnole pour aller bosser à 10,50€ de l'heure, pour ne pas savoir s'ils vont rentrer chez eux le week-end voir leurs enfants et leurs femmes, tu vois. Et c'est à l'année, quoi, ça. Ça, c'est à l'année, parce que quand t'as fini un côté, bah, l'autre côté, ça s'est amalgamé dans le silo numéro 1, et puis tu vas jusqu'au 12, et puis quand tu reviens du 12, bah, le numéro 1, il est repourri, quoi. Ouais. Ça ne s'arrête jamais.
Et le fait d'être aussi mobile, en tant que, justement, de devoir bouger un peu partout, comme tu dis, prendre sa voiture, rentrer que le week-end, comment...
Quand tu rentres, tu vas à 800 bornes de chez toi, et que tu peux, parce que des fois, tu ne peux pas rentrer le week-end, t'es trop loin, quoi.
Comment ça se fait qu'avec toutes ces années-là, il n'y a pas eu de réussite à s'organiser pour créer des espaces de détente,
Je pense que le paramètre principal de la question que tu poses, qui est une bonne question, c'est que jusqu'à aujourd'hui, où on vient de créer cette association justement qui permettra de regrouper les cordistes pour se défendre contre le monde du travail, bah jusque-là, les seuls syndicats qui existaient dans les travaux sur corde, c'était les syndicats de patrons. Donc ce sont des syndicats de patrons qui organisent des PMC, d'autres organismes dont ils mettent des noms avec des initiales, ils s'amusent bien entre eux, mais en fait, c'est la même bande de petits collègues. Ils font des lois pour eux-mêmes, quoi. Tu vois, c'est un petit peu comme les politiques qui tapent sur les retraites des vieux, mais qui s'augmentent leur petit truc entre eux, quoi. Qu'ils soient de gauche ou de droite, ça. Il n'y a pas de gauche, pas de droite. Quand il s'agit de pognon, tout le monde est d'accord là-bas, tu vois, dans les autres sphères. Et donc, le gros problème.
Est-ce que c'est encore plus précarisé vos métiers, mais bien sûr. Des métiers d'intérimaire où la communication n'est
bien
pas
sûr.
Forcément possible.
Non, mais ça, tu appuies exactement là où il faut. Précarisé et paupérisé particulièrement, c'est-à-dire vraiment tiré par le bas. Donc après, il y a aussi le truc de l'allègement Fillon qui nous a bien fait mal. Quoi. L'allègement Fillon, où tu sais qu'une boîte d'intérim, normalement, toute boîte d'intérim dans tous les corps de métier, elle gagne sur ton taux horaire. Elle n'a pas le droit de gagner sur tes grands déplacements, quel que soit le métier que tu exerces, mais elle peut gagner sur ton taux horaire, c'est le jeu. Voilà, elle te vend, bon, elle gagne un coefficient sur ton taux horaire. Jusque-là, pas de problème. Mais la logique, c'est que plus tu es payé, plus ils devraient gagner. Leur jeu, normalement, ça serait de te vendre 25€ de l'heure, tu vois, pour gagner 20% de 25€, c'est mieux que 25% de 10€. Sauf qu'avec cette histoire d'allègement Fillon, ils gagnent plus aujourd'hui sur un bas salaire que sur un gros.
Ils n'ont aucun intérêt à te faire gagner
moins. Si, ils ont un intérêt à te faire gagner moins. Ils ont un intérêt, mais pas à plus, à te faire gagner moins. Donc ça, on a vu vraiment la différence des salaires à ce moment-là, où ça a chuté... On nous a un petit peu endormis à l'époque en nous disant « Ouais, mais tu vois, regarde, je te baisse un petit peu ton salaire net, mais je t'augmente tes frais, ça te fait plus dans ta poche. » Alors les gens, nous on est cordistes, on n'est pas économistes, on n'est pas juristes, tu vois, peut-être un peu bête, je sais pas, mais la moitié des gens, peut-être les 80% même, je pense, moi y compris, on a plongé dedans, on a dit « Bah oui, ok, bon allez, un petit peu moins de taux horaire. » Et je te parle d'une époque, il y a 15 ans, 10-15 ans, où on avait encore des taux horaires, bon, on pouvait pas trop pleurer, tu vois, on n'avait pas de quoi faire grève, tu vois, on n'était pas des nantis, mais on avait un boulot, c'était correct, quoi. Et à partir de là, on nous a augmenté un petit peu les frais de déplacement au détriment des taux horaires, mais sauf que d'un coup, les URSSAF, ils ont dit, mais c'est quoi ces grands déplacements-là ? Hop, ils ont replafonné les grands déplacements, mais les taux horaires, eux, ne sont pas remontés. Donc on s'est retrouvé avec une balance, mais qui a été complètement faussée, quoi, où on n'a pas réussi à récupérer notre niveau de salaire d'il y a 10-15 ans. Et non seulement on ne l'a pas récupéré, mais ça a continué à baisser, à baisser, à baisser, à baisser. Et aujourd'hui, donc moi j'ai 49 ans, je fais ça depuis 20 ans, il y a des boîtes d'intérim qui m'appellent, je ne sais même pas d'où ils ont mon numéro, et qui me proposent des chantiers à 10,50€ de l'heure. On dit, les gars, vous fatiguez plus. Économisez-vous la conversation. Je ne vous parle pas, quoi. Je ne parle plus avec vous. Je ne veux même pas en entendre parler de ces gens-là. Parce que pour moi, c'est des marchands d'esclaves. Ils veulent jouer sur cet allègement Fillon pour se gaver sur des mecs qui vont... vouloir juste survivre, quoi, nourrir leur famille avec un boulot avec qui, normalement, vu la quantité de formation, de compétences, de critères de base qu'il faut, même pour aller se présenter à un s'occuper, il faut déjà des critères que tout le monde n'a pas. Pour avoir le vertige, avoir une super condition physique, être capable de se débrouiller avec un marteau pour trois, c'est des compétences, tu vois, je veux dire, parce que souvent dans les boîtes, tu n'as pas assez de matos. Combien de mecs, moi y compris, on va sur les chantiers, on amène notre caisse à outils, quoi, parce que moi je sais que j'aime bien mon boulot et j'aime bien ne pas avoir à chercher 2 heures un outil pour le faire. Et puis si c'est pour s'entendre dire « Ouais putain, vous avez mis tout ce temps-là pour faire ça les gars », alors que bon, il y a un vrai problème organisationnel en amont et c'est pas à nous de le régler, mais on prend quand même sur nous de le faire La plupart des mecs, c'est vraiment un truc, c'est pas une
c'est
mode.
C'est même pas reconnu comme.
Et c'est pas reconnu, c'est pas payé, pas, c'est pas, y a pas de prime, y a rien. C'est, tout ça, c'est normal pour eux, ils en ont pris l'habitude, quoi, tu vois. Parce qu'on est une catégorie de gens qui ont un boulot de passionné. On aime ce qu'on fait. Et ça, c'est ce qui nous dessert le plus dans ce boulot. C'est qu'on aime ce qu'on fait. Mais ce qu'on fait ne nous aime pas, quoi. Parce qu'on me dit toujours, moi j'aime mon boulot, je ne l'aime pas.
Rassemblement et la création de l'association, la volonté aussi de, comme tu disais tout à l'heure, peut-être regrouper les affaires.
C'est ça, de centraliser, ça a plusieurs objectifs. Bon, déjà, c'est de centraliser un certain nombre d'informations qui soient accessibles au plus grand nombre, surtout aux débutants, quand ils se posent des questions techniques ou de procédures sur certains chantiers, type industriel, en particulier les silos et les trucs comme ça, ou d'autres trucs. Hein, on a un métier qui est tellement varié, en fait. C'est un métier d'accès. Après, dans notre métier, on peut être peintre, soudeur, maçon, couvreur, zingueur, mettre des trucs en petit pigeon, faire des antennes, du paratonnerre, creuser dans des silos. On a un métier qui ouvre la porte à tous les autres métiers du bâtiment et de l'industrie, voire du nucléaire, de la pétrochimie. On est dans tous les niveaux. Si demain matin, en fait, tous les cordistes faisaient grève, la France s'arrêterait. Parce qu'il y aurait plein de routes bloquées, il y aurait de la pétrochimie qui serait arrêtée, il y aurait du nucléaire qui serait arrêté. On est dans tous les niveaux du bâtiment, de l'industrie et du nucléaire en France. Donc pour finir ce que je disais, le truc des cordistes, c'est de pouvoir recenser déjà tous les accidents, pour qu'il y ait une vraie vision d'ensemble de la misère de ce métier, de la vraie misère sociale de ce métier, voilà, pour que les gens se sentent plus isolés. Et puis que quand il y a un mec sur un chantier, ou deux mecs sur un chantier, parce qu'en l'occurrence on est censé être au minimum deux, ce qui n'est même pas toujours respecté, pour se surveiller mutuellement. Et en l'occurrence, bah, voilà, quoi, que les mecs qui se posent une question sur un chantier et si son binôme n'a pas la réponse, bah, voilà, il y aura cet organe qui pourra lui répondre, lui dire « Ah, bah, là tu peux faire ça pour solutionner ton problème, ou alors au contraire, non, mettez-vous en retrait les gars, faites votre devoir d'alerte et pratiquez votre droit de retrait parce que là, il y a un risque non maîtrisable et qui aurait dû être géré en amont par l'organisation de boîte. Et c'est pas à vous à le gérer. Quoi. Et de dire, ben, ça, c'est, vous êtes dans votre droit. Vous pouvez poser votre kit, vous asseoir dessus et attendre que ça se passe. Quoi. Parce que vous n'êtes pas là pour vous faire mal, vous êtes là pour que le boulot il avance. Mais c'est pas à vous d'y mettre les moyens. Vous mettez vos moyens physiques, mais c'est pas à vous d'acheter du matos. Parce que ça arrive même ça. Tu vois, ouais. Même les mecs, ils veulent faire avancer le jeu public, ils vont, ils achètent le matos. Quoi. Et après, ils mettent deux mois à se faire rembourser, tu vois. Et tout ça pour que la boîte puisse faire son pognon. On sent qu'il y a quelque chose qui a bougé quand même hein, depuis quelques années. Donc ça commence un petit peu à s'organiser dans les boîtes. Ils essayent un petit peu de faire un effort. Mais c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait. Pour l'instant, c'est pas du tout ça.